ثبات وصمود الصحراويين وعن ما ولا قد حد يزعزعنا لا باستماره ولا بشي ثاني. الصمود والثبات هذول اللي قايسين دايره ثاني.
صحراوي صحراوية.
Mon mari est un militant indépendantiste et il a été arrêté avec 22 camarades et ils sont passés au tribunal militaire il y a 2 ans et ils ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à perpétuité.
Et pendant ces interrogatoires-là, donc il a été à nouveau frappé, il a été mis sur le ventre puis sur le dos et frappé sur la plante des pieds, donc c'est le supplice qu'on appelle le supplice de la falaka.
Nous on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord, et donc c'est pour ça qu'on veut nous faire taire.
On a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental.
Un peuple qui résiste continue d'exister.
On vient d'écouter le son de la bande-annonce du film « Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui », film projeté lundi 17 décembre dernier au Cinéma Vida Arras. Ce documentaire était proposé par l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une association nationale qui milite aussi pour la suppression de la peine de mort partout dans le monde. C'était à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ce soir-là, l'ACAT avait invité pour présenter le film Michel Decaster de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Avant de parler du militant sahraoui Naama Asfari, Michel Decaster évoque à notre micro la situation particulière de ce peuple et de ce pays, le Sahara occidental.
Donc le Sahara occidental était un pays sous colonisation espagnole et en 1975, alors que le peuple sahraoui s'apprêtait à aller voter puisque l'Espagne avait enfin décidé de faire un référendum, mais profitant du moment où Franco, le dictateur espagnol, était à l'agonie, Hassan II a profité pour faire la marche verte parce que la Cour internationale de La Haye avait donc décidé d'ailleurs par le roi du Maroc, avait donc décidé que le peuple sahraoui était parfaitement capable et en droit, surtout en droit, de voter pour l'autodétermination comme d'autres peuples d'Afrique pour décider de son avenir. Voilà. Donc Hassan II, sachant que cette déclaration redonnait droit au peuple sahraoui de s'exprimer, a décidé de faire la marche verte et a emmené des milliers de Marocains en direction du Sahara occidental avec son armée qui est entrée et qui a envahi. Donc en novembre 1975, qui a envahi le Sahara occidental, qu'il occupe depuis, pour ainsi dire, 80% du territoire est occupé par le Maroc et qui a érigé à travers ce pays 2720 km de murs de défense.
De part et d'autre de ce mur, quelle est la situation d'un côté, donc une administration marocaine, donc côté ouest, et côté est, les camps de réfugiés de la population sahraoui, c'est ça ?
Alors les Sahraouis se sont réfugiés parce que c'était une attaque militaire, qui avait, y compris avec des bombardements au napalm et au phosphore blanc. Donc la population et ces familles sahraouis, elles ont été séparées, disons que pratiquement toutes. Presque toutes les familles sahraouies ont été séparées parce qu'on fuit devant un envahisseur. Et c'est pas une région par rapport à une autre, c'est toutes les régions du Sahara dont les femmes, les enfants sont partis se réfugier. Les hommes ont donc faisaient la guerre contre le Maroc. Et il y a une république. Le jour où l'Espagne officiellement a quitté le Sahara occidental, les Sahraouis ont créé la République arabe sahraoui démocratique qui est une république en exil qui existe maintenant depuis 42 ans.
Si le Maroc occupe, on peut dire ça comme oui, ça, occupe, le, c'est ça, le Sahara c'est le terme. Occidental, c'est pour ses richesses, on peut le dire aussi comme ça ?
Au départ, c'était une question plutôt de survie pour Hassan II. C'était l'époque où il avait eu des coups d'État militaires, où les populations étaient tellement pauvres qu'il y avait eu des récoltes, des soulèvements populaires dans la population civile, qui étaient vraiment des gens pauvres. Et il y avait les étudiants marxistes-léninistes qui commençaient à se rapprocher des syndicats de travailleurs. Donc, pour Hassan II, c'était de faire un consensus national en parlant de récupérer des terres qui, soi-disant, auraient appartenu au royaume du Maroc, ce qui était faux. Le Sahara occidental était une terre où il y avait des nomades dessus et qui n'a jamais appartenu au sultan du Maroc précédemment. Donc, c'est effectivement une occupation. Il n'y a aucun pays au monde qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, même pas ses plus grands soutiens que sont la France, l'Espagne, les États-Unis, enfin, et beaucoup d'autres. Donc, personne ne l'a reconnu. C'est pour ça que le référendum d'autodétermination est toujours d'actualité et toujours dans les mains du droit international.
Et sur les richesses qui sont
alors
sur
c'est
place,
un pays qui est très riche. D'ailleurs, aujourd'hui, elles sont exploitées notamment au niveau du phosphate. Hein. Les mines de phosphate rapportent beaucoup au roi du Maroc parce qu'il y a des mines de phosphate au Maroc, mais il y a la grosse mine de Fos Boukra. Et puis, il y a surtout les eaux poissonneuses aujourd'hui. Pratiquement 80%, 90% je crois, du poisson que le Maroc commercialise vient du Sahara occidental, notamment de Darla et de Boujdour, des grands ports. Et donc aujourd'hui, le Front Polisario eh bien, met en cause et a entrepris des actions en justice contre des firmes qui travaillent au Sahara occidental parce que ce territoire non autonome, ça s'appelle comme ça au niveau de l'ONU, c'est un territoire non autonome, eh bien, normalement, ces richesses naturelles ne peuvent pas être exploitées sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Et le peuple est représenté au niveau de l'ONU, c'est le Front Polisario qui représente ce peuple.
Comment ce peuple résiste depuis de si nombreuses années ?
Alors ça, c'est vraiment magnifique parce qu'il résiste de deux manières. Il résiste d'une part dans les camps de réfugiés où les gens sont installés dans des conditions assez précaires parce que vous êtes sur une hamada qui est balayée par les vents, très chaud l'été et très froid l'hiver. Donc vous avez des réfugiés qui sont là, vous avez des enfants qui sont nés là, qui sont aujourd'hui des adultes et qui sont nés dans les camps de réfugiés. Donc c'est très dur, même si maintenant c'est des camps de réfugiés où il y a des panneaux solaires, où il y a la télévision. Les gens ont des petites télévisions, bien sûr, mais c'est quand même un exil. Vous êtes loin de votre patrie et ça, c'est un gros problème. Et puis, vous avez des fois des pluies torrentielles qui ont dévasté les camps, ou vous avez des grands vents qui arrachent les tentes parce que c'est quand il y a des grands vents de sable. Et puis, de l'autre côté du mur, eh bien, il y a cette répression permanente, une répression qui est terrible, qui s'est exercé depuis le jour où le Maroc est rentré avec l'armée. Vous avez eu des enlèvements, vous avez eu plus de 1000 personnes qui ont disparu sur un petit peuple, hein, parce que le peuple du Sahara occidental, c'est sans doute autour à l'époque de 500 000 personnes. Mais quand vous avez déjà 1000 disparus sur 500 000, c'est beaucoup au niveau de la proportion. Donc, vous avez eu des disparitions forcées, des gens qui en sont revenus, puis des gens qui ne sont jamais revenus de cette disparition. On a toujours 800 personnes sur lesquelles on n'a pas le sort de ces personnes, même si on sait qu'elles sont décédées, mais on ne sait pas où, quand, comment. Et puis, vous avez une répression terrible au niveau des procès, au niveau de la répression des manifestations pacifiques. Et d'ailleurs, j'ai collecté des témoignages, plus de 60 témoignages que j'ai collectés pendant les nombreuses années où je suis allée, les nombreuses fois où je suis allée au Sahara occidental. J'ai collecté des récits de vie que j'ai édités dans un livre. Et donc, vous avez des gens qui résistent et qui font une résistance pacifique. Il y a une intifada pacifique qui est permanente depuis 2005 maintenant. Et elle est magnifique parce que c'est des jeunes qui la portent, c'est des femmes, c'est des hommes. Et c'est une résistance pacifique. Et comme c'est pacifique, on n'en parle pas dans les médias, sauf chez vous ce soir. Et merci beaucoup de nous donner la parole pour parler de ce peuple.
On est toujours en compagnie de Michèle Decaster, intervenante du ciné-débat autour du film « Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui », documentaire projeté lundi 17 décembre dernier au Ciné Movida à Arras. Vous, a priori, vous n'êtes pas originaire de cette région. Quel est votre lien avec le Sahara occidental ?
Ah ben moi, j'ai été, mon premier coup de cœur avec les Sahraouis, c'était des enfants qui sont venus dans les centres de vacances de la ville d'Argenteuil, pour lesquels j'étais à l'époque élue à l'enfance. Et quand j'ai vu ces enfants extrêmement dynamiques, des gosses tellement curieux de tout, que je me suis dit, mais c'est pas possible, des gosses qui viennent de camps de réfugiés et qui sont si drôles, si dynamiques, si avides de connaître tout ce qui se passe autour d'eux et de comprendre le monde autrement que dans un camp de réfugiés, j'ai eu envie d'aller voir ce peuple. Et quand j'ai vu ces gens magnifiques qui résistent dans la dignité, c'est la dignité qui est, c'est très beau, qui verra la dignité des hommes, des femmes. J'ai été effectivement, je suis aussi d'une famille, issue d'une famille où on avait des principes sur la liberté et contre les injustices. J'ai un grand-père qui a été fusillé par les nazis parce qu'il faisait de la résistance. Donc il y avait quelque chose qui répondait en moi et je me suis passionnée pour ce peuple qui le mérite tout à fait.
Alors le film dit lors que j'existe une histoire sahraoui. Donc on l'a dit, le protagoniste de ce film, c'est Nahama Asfari, une figure importante pour ce mouvement.
Oui, c'est une figure emblématique, Nahama, parce que c'est un jeune, c'est un jeune, bien sûr, plus jeune que moi, il a une quarantaine d'années maintenant, et Nahama, il a eu son papa qui a fait partie des gens qui ont disparu. Il a disparu, il a été enlevé par l'armée marocaine en février 76 et il est réapparu en juin 91. Donc son père, il l'a vu, il était gamin quand on l'a enlevé devant lui. Il a tout un passé personnel qui est important. Et puis, il a fait partie de ces gens qui se sont soulevés pour leurs droits, leur droit à vivre libre et à s'autodéterminer. Et Nahama est un des militants emblématiques parce que c'est un juriste, parce qu'il s'exprime bien, s'exprime en français. Il a étudié en France. Et donc, il fait partie effectivement des gens qui sont dans la ligne de mire des autorités marocaines. Et c'est pour ça qu'il faisait. C'était pendant le procès au tribunal militaire et au tribunal d'appel auquel j'ai assisté, c'était lui qui était le principal visé, c'était le diable pratiquement. On l'a accusé de tous les maux, y compris d'assassinat de gens, alors qu'il était arrêté la veille du démantèlement du campement de Gademizik. Il était dans les mains de la police, dans les pattes des tortionnaires. Et donc lui, il n'y est pour rien du tout sur les morts parmi les forces de répression qui sont entrées en vigueur sur ce campement pacifique. Il y avait quand même 2000 tentes, environ 20 000 Sahraouis qui étaient installés dans le désert et qu'au petit matin du mois de novembre 2010, eh bien, on les a fait décamper et, dans la violence. Et là, il y a eu effectivement des hommes des services qu'on appelle services d'ordre qui sont décédés parce que les gens se sont défendus devant l'attaque dont ils étaient l'objet. Mais Nahama, lui, il était dans les pattes de la police, alors il n'est pour rien du tout dans ces morts-là. Et le film retrace le combat de sa femme pour aller le voir. Il est marié avec une femme française, Claude Mangin, et qui, elle, aujourd'hui, le film, d'ailleurs, ce soir, on va expliquer que le film, aujourd'hui, il y a des choses à remettre à jour, parce que maintenant que le film est paru, et maintenant que la plainte de Nahama Asfari auprès du comité contre la torture de l'ONU a donné ses fruits, puisque le comité de la torture, l'ONU a condamné le Maroc, qui a fait usage de torture pour obtenir des aveux pour Nahama et pour ses compagnons, parce que dans le rendu de l'arrêt du comité, il y a également et les autres compagnons, tout le monde, et d'ailleurs pendant le procès, ils l'ont dit. Moi j'ai vu ces gars qui disaient, sur ces bancs, j'ai été interrogé dans ce tribunal et j'ai été torturé là. Il y a des gars qui ont montré où ils avaient été torturés. Mais alors le tribunal n'a pas entendu ça, puisque le procès verbal ne le dit pas. Donc il y a eu, ces tortures n'ont pas du tout été prises en compte par les autorités marocaines, ni par le fameux Conseil des droits de l'homme nommé par le roi. Naturellement, ce conseil fantoche qui est là pour masquer la réalité de la répression de ce régime sur le peuple sahraoui et sur le peuple marocain d'ailleurs.
Nahama Asfari est toujours en prison, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même plusieurs espoirs, parce qu'il y a des requêtes au niveau international, et puis je crois aussi le procès militaire finalement qui avait été donné, il aura quand même un procès civil.
Alors, le procès a eu lieu au civil, c'est-à-dire que dans la mesure où le Maroc savait que le comité contre la torture allait étudier la plainte et l'avait reçue comme recevable, il s'est précipité 3 ans après la demande de recours. Hein. Normalement, c'est 6 mois, mais là, ils ont mis 3 ans pour accepter de faire un recours en tribunal civil. Mais puisque la cassation, elle avait cassé le procès, normalement, on aurait dû reprendre la procédure, c'est-à-dire reprendre les interrogatoires. Eh bien, on ne les a pas repris. C'est-à-dire que c'est à la marocaine que ça se fait. Hein. Donc, même le code pénal marocain n'est même pas respecté. C'est-à-dire, la loi, c'est le roi au Maroc, c'est ça. Les codes de procédure, on s'en bat l'œil. Alors, ce procès, il a été refait en 2017. À partir du mois de décembre 2016, il a été remis en route, ce procès, en appel. Mais la sentence a été pratiquement la même. La même pour les 9 qui étaient condamnés à perpétuité, la même pour ceux qui étaient condamnés à 30 ans comme Namaz Fari, et il n'y a qu'un gars qui a été remis en liberté parce qu'il était malade. Sinon, vous aviez les mêmes sentences pratiquement. Donc, fallait refaire un procès pour être en règle, entre guillemets. Hein.
Dernière partie de notre entretien avec Michel Decaster de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. La cause du peuple sahraoui trouve des soutiens à l'international. Bon, on sait que l'Algérie soutient la cause des Sahraouis. Quid de la France ?
La France soutient le Maroc. La France est un pays qui reste dans sa tête et dans ses murs colonialistes et qui continue à soutenir des pays comme le Maroc. Moi, pour des raisons X. Pas seulement économique, pour des raisons de stratégie, la France soutient le Maroc. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi une chose nouvelle par rapport au film, c'est que Claude Mangin est interdite de visite. C'est pour ça qu'elle a fait une grève de la faim de 30 jours au mois de mai dernier, parce que depuis que la plainte est arrivée et que le Maroc a été condamné, depuis que ce film s'est tombé en même temps, hein, le film il est sorti en octobre 2016, donc depuis que ce film existe et depuis que la plainte elle a abouti, Claude Mangin a été expulsé 4 fois du Maroc, alors qu'elle allait voir son mari. Pourtant, avant, elle allait le rencontrer en prison et maintenant, elle est interdite. Et donc, avec cette grève de la faim qui a alerté beaucoup de monde, elle a eu beaucoup de soutien pour cette grève de la faim, les autorités françaises ont été alertées. Le président de la République a missionné M. Le Drian pour aller voir son collègue au Maroc. Mais voyez, la France qui soutient mordicus le Maroc dans cette colonisation, elle n'arrive même pas à obtenir le droit, puisque c'est le droit de la procédure pénale du code pénal marocain. La France n'arrive pas à faire valoir le droit de sa ressortissante pour aller voir son mari.
Ce conflit, on en parle très très peu dans les médias. Un biais, c'est bien sûr les militants des droits de l'homme comme vous, comme d'autres. Il y a aussi le côté culturel, les artistes du Sahara occidental, les artistes sahraouis, notamment, bon, même s'il est décédé, je pense, Myriam Hassan, Aziza Brahim, sont des artistes qui font entendre leur voix et qui aussi diffusent ces idées.
Oui, bien sûr, mais on les entend peu. Il y a un grand poète, là, il n'y a pas longtemps que j'ai acheté un livre qui s'appelle « Les rites de l'attente ». C'est un poète, l'imam Boishaud, qui est un poète sahraoui, qui a fait un très beau livre de poésie et d'explication sur les rites traditionnels sahraouis. Non, on n'entend pas beaucoup parler. Mais les médias, on vient d'avoir une délégation de jeunes Sahraouis, dont une jeune fille de 20 ans qui est venue du Sahara occidental, dont le papa a été condamné à 15 ans de prison, alors qu'il y avait eu un mort à une manifestation et lui, il était au travail ce jour-là. Ben, il a été quand même condamné à 15 ans de prison parce qu'on a dit que c'était lui qui avait décidé de la manifestation. Bon, ben, cette jeune fille, elle est venue. J'ai alerté avec Claude, on a alerté beaucoup de journalistes de la radio, de la presse écrite aussi. Eh bien, on a eu personne, des journalistes, qui sont venus pour interviewer cette jeune fille qui venait témoigner de ce qui se passe au Sahara occidental. Alors que c'est l'actualité, puisque vous savez qu'il y a eu des rencontres dans le cadre des négociations que l'ONU a relancées. Eh bien, ben oui, mais à qui appartiennent les médias ? Vous êtes une radio libre, vous. Au moins, vous nous invitez.
Mais alors, du coup, dans ces négociations, si j'ai bien compris, finalement, Trump accélère les négociations. Comment ça se passe ? Comment vous voyez ça un petit peu
Bah, ce que l'on en sait, c'est que les États-Unis trouvent qu'on dépense beaucoup d'argent au niveau de la MINURSO, de cette mission des Nations Unies qui était là depuis 1991 pour organiser le référendum. C'était le but de la MINURSO. Donc vous voyez, depuis 1991, on en est à avoir eu une période de guerre pratiquement deux fois plus courte que la période de cessez-le-feu. C'est quand même complètement aberrant. Et vous avez donc des... Et en plus, le roi a foutu dehors la MINURSO à une époque parce que l'ancien secrétaire général de l'ONU avait parlé d'occupation. Ben oui, il occupe. C'est les termes juridiques pour lesquels... Et donc, il avait fichu dehors les gens de la MINURSO, la partie administrative, c'est-à-dire celle qui était chargée de faire le référendum, comme par hasard, laissant les militaires qui vérifient le cessez-le-feu. Trump a l'air de vouloir accélérer les choses pour qu'on en finisse. Mais si on en finit en respectant le droit international, banco, impeccable, faisons voter les gens, puisque c'est le droit international et que l'ONU a toujours dit que les Sahraouis pouvaient voter dans un référendum d'autodétermination. Sauf que le roi du Maroc, il veut une question, que les gens votent pour l'autonomie dans le cadre du Maroc. Alors si les puissances internationales, l'ONU, quand on dit l'ONU, c'est la France, les États-Unis, les grandes puissances, hein, personne d'autre, hein, eh bien, si ils décident de faire droit au droit international, eh bien, on les fait voter. Et puis, qui vote ? Après, s'ils veulent rester avec le roi du Maroc, ils resteront avec le roi du Maroc. S'ils veulent être indépendants, ils seront indépendants. Mais qu'ils aient au moins le choix. On ne peut pas dire à des gens, vous allez voter pour rester dans les pattes de ceux qui vous oppriment tous les jours, qui vous pillent vos richesses et puis qui vous donnent pas tous vos droits, quoi. Donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, ils les ont remis face à face, mais qu'il y avait quand même en plus les voisins de palier, hein, l'Algérie et la Mauritanie. Maintenant qu'ils les mettent face à face et puis qu'à un moment donné, l'ONU dise, ben voilà, on y va, on vote. Mais si c'est toujours les caprices royaux qui ont le dernier mot, on va encore rester pendant 50 ans comme ça. Bon, ben on se reverra.
Michel De Caster de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique. Elle était l'invitée du ciné-débat organisé au Movida Arras autour du film « Dis-leur que j'existe, une histoire sahraoui ». C'était lundi 17 décembre dernier à l'invitation de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'illustration musicale de ce sujet est signée de deux chanteuses sahraouis, Aziza Brahim et Mariem Hassan.
Como el viento.